VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 31 août 2017. En direct de Washington, Abdourahmane Dia et Anne Alberson. Les titres de cette édition.
En République démocratique du Congo, le recensement des électeurs démarre la semaine prochaine dans le Kasaï.
Affaire dite des biens mal acquis, l'enquête sur le patrimoine de l'ancien président gabonais Omar Bongo est bouclée.
Quelques semaines après sa réélection, le président rwandais Paul Kagame nomme un nouveau Premier ministre inconnu du grand public.
Dans la partie magazine, nous vous proposerons la réaction d'une activiste camerounaise après la décision du président Paul Biya d'ordonner l'arrêt des poursuites contre des leaders anglophones.
Également au menu, la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord, le journal.
Des coups de feu ont retenti tôt ce matin dans plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi. Selon les habitants du quartier Kalebuka, il y aurait au moins 2 morts. Des manifestants sont sortis dans la nuit de mercredi à jeudi pour dénoncer l'insécurité suite à des tueries. La situation reste tendue, la police et l'armée sont en renfort pour disperser les manifestants. Une information de notre correspondant sur place, Narval Mabila.
Toujours en RDC, c'est finalement le 4 septembre que débute l'enrôlement des électeurs dans le Kasaï, région secouée par des violences depuis août 2016. Des détails avec Eddie Isango.
La date a été annoncée à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, où la CENI, les gouvernements et les conseils nationaux du suivi de l'accord du 31 décembre évaluaient hier les processus électoraux. Corneille Nanga, le président de la CENI, a dans un discours public demandé à la population de participer massivement à l'opération en vue, a-t-il dit, de permettre à la CENI de publier les calendriers électoraux. Le gouvernement a pour sa part rassuré que l'espace du Kasaï central ainsi que les territoires de la Lomami sont désormais sécurisés. Le ministre de l'Intérieur a donc autorisé à la CENI d'y déployer son matériel et son personnel, d'identifier et enrôler sans attendre les électeurs. L'enrôlement dans cette région était jusque-là incertain et constituait une des raisons du report probable des élections devant se tenir avant décembre selon l'accord politique du 31 décembre. Plus de 40 millions et demi de électeurs ont jusque-là été enrôlés dans les 24 autres provinces d'après la CENI. Des membres de la CENI ont été tués et des bureaux vandalisés dans les violences au Kasaï qui ont coûté la vie à au moins 3000 personnes.
Fin de l'investigation sur le patrimoine de membres du clan de feu Omar Bongo. L'ancien chef de l'État gabonais détenait des biens considérables en France. Les explications d'Éric Manerekiza.
Les juges français en charge de ce dossier ont terminé leurs investigations. Toutefois, ils s'interrogent sur de possibles liens entre l'actuel président gabonais Ali Bongo et une société suisse Achimob, notamment propriétaire d'un hôtel particulier à Paris. L'année dernière, les enquêteurs ont ordonné la saisie d'une société civile immobilière, propriétaire d'une villa à Nice et d'un hôtel particulier à Paris. La gérante française de cette société a été mise en examen, mais aucun membre du clan Bongo n'a été poursuivi. L'ONG anticorruption Transparency International, partie civile dans l'enquête, a dit en 2009 que la famille Bongo et ses proches possédaient à l'époque 33 propriétés en France. Pascaline Bongo aurait acheté pour près d'1,38 million d'euros de montres et bijoux entre 2006 et 2007. Cette vaste enquête dite de biens mal acquis, lancée depuis 2010, vise à déterminer si leurs acquisitions proviennent des fonds publics détournés. Elle a débouché sur un premier procès à Paris contre le fils du président de Guinée équatoriale et actuel vice-président du pays, Théodorin Obiang. Il sera fixé sur son sort le 27 octobre prochain.
Une ONG burundaise appelle la Cour pénale internationale à enquêter sur les crimes commis au Burundi depuis 2015 en évoquant des centaines de disparitions. Le Forum pour la conscience et le développement, FOCODE, appelle la CPI à engager des poursuites contre leurs auteurs, quelle que soit leur position dans les institutions de l'État. Le Burundi avait notifié formellement aux Nations Unies sa décision de se retirer de la CPI en octobre 2016. Ce retrait sera effectif un an après. La CPI a donc jusqu'au 27 octobre 2017 pour ouvrir une enquête.
Le président rwandais Paul Kagame a nommé hier au poste de premier ministre une personnalité peu connue, Edouard Ngirente. Cette annonce intervient, Jacques Aristide, au moment où des informations font état de l'arrestation d'une opposante au chef de l'État.
Il s'agit de Diane Shima Rwigara, qui a été appréhendée mardi à son domicile avec quatre autres membres de sa famille. C'est du moins ce qu'a dit hier à son frère Aristide Rwigara à Reuters. La police rwandaise a indiqué avoir fouillé la résidence dans le cadre d'une enquête sur la jeune femme de 35 ans pour évasion fiscale et falsification de documents, mais a démenti sur Twitter avoir procédé à des arrestations. Diane Rwigara n'a pas pu se présenter à la présidentielle début août après avoir été disqualifiée par la commission électorale pour avoir falsifié des signatures. Le scrutin a été remporté haut la main par Paul Kagame, qui s'attelle donc à remanier le gouvernement. Plusieurs ministres de longue date pourraient perdre leur poste. Son nouveau premier ministre, le néophyte Edouard Ngirente, succède à un homme politique confirmé, Anastase Mourekezi, du Parti social-démocrate, membre de la coalition au pouvoir, très largement dominée par le Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Au pouvoir depuis la fin du génocide de 1994, le président Kagame est crédité du spectaculaire développement du pays. Il est accusé toutefois de bafouer la liberté d'expression et de réprimer toute opposition.
Au Nigeria, ouverture hier devant la Cour de justice de Lagos d'un des procès les plus médiatisés, celui du célèbre criminel surnommé le roi du kidnapping. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Accompagné de cinq de ses présumés complices, dont une femme, Chukwu Dubem Onwuamadike, surnommé Evans, est apparu devant la Cour pour la première fois depuis son arrestation le 10 juin dernier. Il a plaidé coupable pour deux chefs d'accusation. Enlèvement et conspiration contre Donu Donatus, détenu entre le 14 février et le 12 avril. L'avocat de l'accusé s'est offusqué et a affirmé que son client a été forcé par la police qui lui a ordonné de plaider coupable, sinon il sera tué. Selon les enquêteurs, Evans et son gang ont collecté une rançon de 223 000 euros en échange de la libération de leurs victimes. La police a terminé ses enquêtes sur 9 autres cas d'enlèvement et elle dit qu'elle entend faire du cas Evans un procès d'intérêt public. Le monde doit savoir de quoi la justice nigériane est capable, a lancé David Igbodo, commissaire de police chargé des investigations. Le procès a été renvoyé au 19 octobre. S'il est prouvé qu'Evans a participé au meurtre de l'une de ses victimes, il risque la peine de mort. Le phénomène du kidnapping contre rançon est répandu au Nigeria depuis une dizaine d'années.
D'ailleurs, toujours au Nigeria, des inconnus ont enlevé et exécuté quatre militaires et abattu un civil dans le sud du pays. Les faits se sont déroulés dans l'état de Bayelsa, une région riche en pétrole.
Et on reste au Nigeria avec un appui de la Grande-Bretagne dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Londres a accordé une aide de 220 millions d'euros sur 5 ans à Abuja. Cette annonce intervient au moment où le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, effectue une tournée en Afrique afin de renforcer les liens politiques et commerciaux de la Grande-Bretagne avec ce continent. Boris Johnson s'est notamment rendu à Maïdougouri, capitale de l'État nigérian de Borno, épicentre des violences de Boko Haram. Sur place, il a rencontré des acteurs de la lutte contre le groupe djihadiste.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ouragan Harvey qui a frappé le Texas et provoqué de graves inondations a causé la mort de 33 personnes selon les autorités locales. Le bilan pourrait s'alourdir et quelques signes de recul tout de même. Des inondations étaient perceptibles hier à Houston, mais des localités situées au sud-est de la ville étaient encore sous les eaux après avoir reçu de nouvelles précipitations.
Et l'élan de solidarité pour venir en aide aux victimes de Harvey prend forme autour de célébrités. Après Beyoncé et le rappeur Drake, de nombreuses célébrités ont annoncé leur intention de sortir le porte-monnaie pour les victimes de la tempête. Le chanteur Chris Young, les actrices Sandra Bullock et Jennifer Lopez, les Kardashian font partie de ceux qui ont répondu au comédien Kevin Hart, qui avait invité ses amis à suivre son exemple en annonçant un don de 25 000 $ à la Croix-Rouge.
La Turquie a protesté contre les inculpations aux États-Unis de 3 nouveaux agents de sécurité du président turc, accusés de violence à Washington en marge d'une récente visite de Recep Tayyip Erdogan. Au total, 19 personnes, dont 15 agents de sécurité turcs et gardes du corps de M. Erdogan, sont soupçonnés d'avoir agressé le 16 mai dernier des manifestants kurdes dans la capitale fédérale américaine. Dans un communiqué publié hier soir, le ministère turc des Affaires étrangères a protesté contre les inculpations qualifiées d'injustes et de partiales.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution prolongeant d'un an la mission des casques bleus au Liban, après des dissensions entre Européens et Américains qui voulaient renforcer leur mandat contre le Hezbollah. Présente au Liban depuis 1978, la FINUL compte actuellement quelque 10 500 casques bleus.
L'agence de notation Fitch a abaissé hier la note de solvabilité du Venezuela, estimant que son risque de tomber en défaut de paiement augmente après les nouvelles sanctions financières infligées par les États-Unis. Le président américain Donald Trump a imposé de nouvelles sanctions au Venezuela qui visent à restreindre son accès aux capitaux étrangers. Caracas a dénoncé une agression contre le peuple vénézuélien.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
L'actualité économique sur le continent, c'est la Minute Éco avec Blanche Salou.
Le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, a annoncé ce mardi l'adhésion du Maroc à une monnaie unique de la CEDEAO. Cette monnaie n'a pas encore vu le jour. Selon le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, la visite du responsable de l'organisation ouest-africaine entre dans le cadre des préparatifs pour la validation définitive de cette décision qui devrait avoir lieu le 16 décembre prochain à Lomé. En Afrique du Sud, le gouvernement prévoit la fusion de 3 compagnies aériennes nationales qui sont South Africa Airways et ses 2 filiales Mango Airways et South Africa Airways Express. Il prévoit par ailleurs d'ouvrir 25% du capital de l'entité qui naîtra éventuellement de cette fusion à des investisseurs privés. Au Mozambique, la Taille Mozambique Logistique a annoncé un prolongement de 120 km du chemin de fer dont le coût est estimé à 2,38 milliards de dollars. Selon Ecofin, cette entreprise qui a remporté le contrat de concession, ce prolongement fait suite à la requête de compagnies minières désireuses de profiter de cette infrastructure pour leur opération. Les travaux de construction de ce nouveau chemin de fer débuteront l'année prochaine.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Abdourahmane, bonjour à tous.
On démarre par les éliminatoires du Mondial 2018 en Russie, dans la zone Afrique. Les groupes A et E commencent les hostilités aujourd'hui.
Ouganda, Égypte dans le groupe E et Guinée-Conakry, Libye dans le groupe A, pour donner le temps de ces 4e et 5e journées décisives pour certains pays. Guinée et Libye n'ont pas enregistré le moindre point après les 2 premières journées. La RDC et la Tunisie, 6 points chacun, sont les mieux lotis du groupe E.
Toujours dans cette zone Afrique, 2 pays peuvent se qualifier dès ce week-end.
Il s'agit du Nigeria et de l'Égypte qui ont fait carton plein lors des 2 premières journées. Et avec 2 victoires sur le Cameroun vendredi pour les Sapper Eagles et l'Ouganda pour ce qui est de l'Égypte, ils peuvent déjà voir préparer leur valise pour Russie 2018. Sauf que la tâche ne sera pas facile. Ailleurs, le Ghana peut se replacer lors de la double confrontation avec le Congo vendredi à Kumasi pour commencer. Les Black Stars ne comptent qu'un seul point et voient déjà l'Égypte filer. L'Algérie également est en danger. Les Fenech avec 1 point se déplacent samedi en Zambie avant de recevoir les Chipolopolo le mardi 5 septembre.
C'est très serré dans le groupe D.
Tout à fait, avec toutes les 4 équipes encore en lice pour la qualification. Le Cap-Vert et l'Afrique du Sud s'affrontent tandis que le duel ouest-africain opposera le Burkina Faso au Sénégal samedi à Dakar avant le retour mardi à Ouagadougou.
Dans la zone Europe, la France n'a pas le choix. Le Portugal, lui, est toujours dans sa course-poursuite.
Et oui, le Portugal, champion d'Europe en titre, mais seulement 2e de son groupe, cherchera à revenir en tête aujourd'hui, tandis que la France, également 2e, doit tenir à distance les Pays-Bas pour espérer se qualifier dans le groupe A. Les Bleus, 2e derrière les Suédois, à la différence de but, ont redonné, malgré eux, espoir aux Pays-Bas.
En zone CONCACAF, l'Argentine joue gros aujourd'hui.
Oui, l'Argentine et sa vedette Lionel Messi affrontent à Montevideo l'Uruguay d'Edinson Edinson Cavani et Luis Suarez, encore incertains. Derrière le Brésil déjà qualifié, la Colombie deuxième avec 24 points, l'Uruguay troisième 23 points, le Chili quatrième 23 points et l'Argentine cinquième 22 points. Tous briguent les trois derniers billets directement qualificatifs pour Russie 2018. Le cinquième devra disputer un barrage contre la sélection d'Océanie.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le président camerounais Paul Biya a décrété hier l'arrêt des poursuites judiciaires contre les leaders de la minorité anglophone en lutte depuis novembre dernier contre le pouvoir central de Yaoundé. Ils étaient poursuivis pour actes de terrorisme et comment cette nouvelle a été accueillie dans les milieux anglophones. Bagassi Koura a joint Angela Forbin, une activiste anglophone vivant dans le Maryland, ici aux États-Unis.
C'était prévisible pour moi. Je l'avais dit quand ils avaient été arrêtés parce que, tout simplement, il n'y avait vraiment pas de quoi avoir des charges contre ces gens-là. Leurs revendications sont légitimes. Nous voulons notre système de droit que nous avons propre à nous. Nous voulons notre système d'éducation que nous avons propre à nous. Et nous voulons que la constitution de 72 soit respectée, qui soutenait que les deux cultures étaient distinctes et devraient avoir un même niveau sur le plan national.
Oui, et à vous entendre, on a l'impression que cela ne va rien changer dans vos revendications, dans les manifestations.
Oui. Ce sont des revendications fondées qui datent de plus de 40 ans, je vous le dis, monsieur. On veut un système qui permet à ce qu'un anglophone ne se sente pas comme un sous-camerounais, mais se sente de la même valeur qu'un francophone. On ne veut pas se sentir victimisé. On ne veut pas devoir traduire des documents soi-même dans une région anglophone qui est administrée, par exemple, sous le système de common law. On ne veut pas se retrouver avec un magistrat qui ne s'exprime même pas en anglais et qui vous oblige à traduire vos dépositions en français avant de les amener chez lui. On ne veut pas qu'un enfant brave qui a de bonnes études, qui a fini le A-level, se retrouve frustré à l'université parce que les cours sont dispensés à 80% en français. Voilà les revendications qui sont fondées. Maintenant, on a remarqué qu'après l'arrestation, il y a eu quelques mesures pour saupoudrer la crise. Ce que j'appelle le paracétamol pour guérir un cancer, ça va calmer les douleurs, mais à la fin, c'est un problème qui va ressortir comme un vrai serpent de mer si le président Biya ne prend pas la mesure. Et pour moi, qu'est-ce que je pense vont être de bonnes mesures? C'est d'abord le temps de dialogue.
Et donc, vous pensez que l'abandon de ces poursuites offre une opportunité pour un dialogue?
Je ne sais pas si ça offre une opportunité pour un dialogue, mais je sais que c'est ce qui doit se faire, c'est ce qui est important. S'il tient en compte un seul instant le peuple camerounais, et si pour lui il est important de résoudre ce problème, parce que le revers de la médaille, c'est que qu'on le veuille ou pas, le peuple n'est pas content. Oublions même le côté anglophone du pays. Mais la situation sanitaire du pays n'est pas bonne, les routes tuent tous les jours, l'économie n'est pas bonne, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Et donc ça fait que le président de la République, jaloux de son siège présidentiel, comme il est, nous le savons, il est là depuis 35 ans, s'il veut continuer à consolider le pouvoir, à s'y accrocher comme il le fait jalousement, il est peut-être temps de chercher à faire semblant d'aimer son peuple en leur réunissant et en faisant semblant de les écouter.
C'était Angela Forbin, activiste anglophone vivant aux États-Unis.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Maroc, bientôt membre de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, son adhésion sera confirmée en décembre, selon Marcel Alain de Souza, le président de la commission de la CEDEAO. Pour comprendre les conséquences de ces décisions, Claire Morin-Jibourg a joint l'experte des questions de sécurité en Afrique, Niagale Bagayoko, qui explique que cela va contribuer à assurer plus de stabilité à la région.
Tout d'abord, il faut savoir que donc la CEDEAO est l'une des 8 organisations
sous-régionale africaine reconnue par l'Union africaine. Et dans le cadre de ces organisations sous-régionales, qui initialement avaient une vocation exclusivement économique, un certain nombre de questions diplomatiques et surtout sécuritaires ont été gérées depuis la fin des années 90. Et de ce point de vue-là, la CDEAO a été absolument à l'avant-garde, notamment parce que ça a été la première organisation à mettre sur pied une force africaine, purement africaine d'intervention, qui était les COMOG à l'époque. Donc le Maroc, ayant lui-même de nombreuses relations bilatérales avec des pays africains en matière de coopération militaire et sécuritaire, il reçoit notamment au sein de son académie militaire de Meknès de nombreux officiers africains. Je pense que cette intégration contribuera à renforcer les capacités de la CDEAO en la matière et bien sûr le rayonnement du Maroc d'un point de vue diplomatique et sécuritaire.
Certains experts trouvent que si le retour du Maroc au sein de l'Union africaine était très logique, l'intégration au sein de la CDAO est beaucoup plus délicate et controversée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Elle est plus surprenante, tout d'abord, au premier regard. Tout d'abord parce que cette intégration impliquera une discontinuité territoriale de l'espace CDEAO, dans la mesure où la Mauritanie a choisi de quitter l'organisation en 2000. Donc le Maroc fera partie d'une organisation sans être directement frontalier de la plupart des pays qui en sont membres. Donc cela constitue un premier élément étonnant. D'autre part, il a été indiqué par la diplomatie marocaine que le Maroc adhérerait à une monnaie commune de l'espace CDEAO, qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, hein, puisque la plupart des États francophones font partie de la zone franc, donc ont pour monnaie le franc CFA, tandis que d'autres, tels le Nigeria, le Liberia et la Sierra Leone, notamment, ont leur propre monnaie. Donc cette idée de monnaie commune, alors que la monnaie du Maroc est le dirham, apparaît également comme assez surprenante. D'autre part, comme je l'indiquais précédemment, ces questions sécuritaires, la zone CDEAO, notamment en raison de toute l'instabilité qui touche à la fois la zone du Sahel et la zone du Nigeria, du Niger, etc., aux confins de l'Afrique centrale avec la menace de Boko Haram, risque également d'entraîner le Maroc, si ce n'est un engrenage sécuritaire, en tout cas, de le confronter à des menaces auxquelles il n'est pas directement actuellement en prise.
C'était Niagale Bakayoko, experte en sécurité.
Et Kiabadou avec vous, dans Washington Forum ce jeudi, le point sur les nouveaux décrets proposés par le gouvernement Trump pour expulser les immigrés illégaux. Ils sont plus de 11 millions aux États-Unis. Ils sont ces clandestins. Quels sont leurs recours? Dans quel cas le gouvernement Trump régularise-t-il les sans-papiers? Les États africains collaborent-ils avec les gouvernements américains pour ces expulsions? Quels sont les pays africains les plus mis à mal par les mesures du gouvernement américain? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Une industrie de kidnapping et de la torture est en plein essor dans le désert libyen. Et ce sont les migrants d'Afrique qui transitent par ce pays pour gagner l'Europe qui en sont les victimes. C'est l'avertissement de Jean-Guy Vato, chef de la mission de Médecins sans frontières en Libye. Jacques Aristide l'a joint pour en savoir davantage.
Depuis quelques mois, on a de plus en plus de témoignages de migrants qui sont arrivés en Europe ou sur des bateaux ou dans des centres de détention et qui nous racontent, au-delà du parcours extrêmement difficile de migration qu'ils ont à traverser pour remonter d'Afrique centrale vers les côtes libyennes, en plus de ça, il arrive à certains de se faire kidnapper, torturer par des groupes qui exigent une rançon. Et c'est un phénomène qui semble nouveau, en tout cas dans son ampleur, on en entend de plus en plus parler.
Quelles en sont donc les conséquences?
Alors, pour ceux que j'ai rencontrés, moi personnellement, sont vidés. Cette expérience-là de kidnapping et de torture les a brisés physiquement. Hein, ce sont des jeunes hommes en général, les migrants. Ils ont 20 à 30 ans, ils sont partis plutôt vigoureux. Et là, après les deux faits, encore une fois, à la fois du transit en Libye sous la coupe des trafiquants d'êtres humains et en plus du kidnapping, ils sont dans un très mauvais état physique, malnutrition, anémie, évidemment coups de blessures et brûlures, hein, conséquence de la torture. Et ils sont psychologiquement assez faibles. Un certain nombre disent qu'ils préfèrent rentrer à la maison, ils allaient oublier tout ça. oublié leur rêve d'aller en Europe, qui ont voulu aller travailler en Libye et qui n'ont plus envie, c'est de rentrer chez eux.
Cette semaine même s'est tenu à Paris un mini-sommet Europe-Afrique sur les migrants et les Européens ont parlé d'identifier les réfugiés dès le Niger et le Tchad. Qu'en pensez-vous?
Oui, je pensais que c'était déjà fait, c'était une fausse nouveauté. Ça ne correspond pas de toute façon à la crise qu'on voit actuellement en Libye. La plupart des gens ne souhaitent pas obtenir le statut de réfugié politique. Ces gens-là ne seraient pas allés dans une ambassade pour déposer leur dossier. Ils auraient quand même essayé de traverser la Libye puis la Méditerranée. Quant à ceux qui l'auraient fait, tant chance pour avoir le statut de réfugié politique depuis leur pays d'origine, si jamais leur dossier était refusé, je ne crois pas que ça les empêcherait de tenter leur chance de cette manière-là par les réseaux nouveaux.
La situation s'est donc détériorée. Que faut-il faire d'après vous?
Déjà, on a une population assez importante, peut-être 200 000 à 300 000 personnes en Libye, sous la coupe des trafiquants d'êtres humains. Il faut essayer de leur porter secours, des organisations comme Médecins sans frontières qui les portent. Mais même si on améliorait finalement l'aide délivrée à cette population-là, ce ne sera pas nécessaire pour vraiment notablement améliorer leur sort. Donc parallèlement, il faut trouver une solution pour que ces gens-là ne restent pas trop longtemps en Libye, soit en les laissant passer finalement, en les laissant fuir l'enfer que devient la Libye pour ces migrants et en les accueillant en Europe pour traiter leur dossier. Puis d'ailleurs, pour les renvoyer dans leur pays d'origine, si l'Europe ne veut pas les accueillir, mais en tout cas, il faut absolument essayer à la fois d'éviter qu'ils restent trop longtemps en Libye et quand ils y sont, leur porter un maximum de secours.
C'était Jean-Guy Vato, chef de la mission de Médecins sans frontières en Libye.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Rwanda, des drones au secours des malades dans les salles d'urgence. Leur mission, livrer des poches de sang dans un délai record. Avant, il fallait au moins 3 heures, voire une demi-journée, pour avoir une poche de sang dans des cliniques de l'ouest du Rwanda. Aujourd'hui, le délai a été considérablement réduit, entre 15 et 20 minutes seulement. Un reportage de Charlie Kasereka.
Pour voir ces bijoux qui sauvent des vies, il faut aller à Muranga. C'est à 1h30 des routes et à l'ouest de Kigali, en traversant des villages et des collines, avant de retrouver les petits drones ports installés pour cette fin. Ici, tout est mis en place pour effectuer des transferts sécurisés. Ce matin, des commandes d'urgence viennent d'être effectuées. Arthur, l'un des ingénieurs de la base des Zipline Rwanda, explique.
Ce matin, on a déjà effectué 3 lancements. Il y a eu 2 lancements d'urgence. Comme vous devez le savoir, on délivre déjà donc à une douzaine d'hôpitaux, majoritairement sur l'ouest du Rwanda.
Une autre commande en cours à notre présence. Dans la cabine où sont conservées les poches de sang, une équipe de 3 personnes emballe les colis avant de les confier à l'équipe d'ingénieurs à l'extérieur pour les décollages.
Là maintenant, on vient de recevoir une commande venant de l'hôpital de Rouli, et c'est à peu près à 2h30, 3h d'ici, mais on va pouvoir leur livrer la commande 18 minutes pour arriver à l'hôpital. Quand le paquet arrive à l'hôpital, le drone va jeter le paquet à 10 mètres de hauteur. C'est pour ça que le paquet a un parachute.
Ces petits avions pèsent 13 kilos et peuvent transporter 1,5 kg avec une autonomie de la batterie pour effectuer environ 150 km de trajet. Avant tout décollage, l'équipe d'ingénieurs travaille en synchro pour assurer un bon parcours au drone avec son colis.
Non,
avant l'arrivée de cette technologie dans le monde médical ici au Rwanda, non seulement il fallait mettre plus de 3h30 de route pour avoir une poche de sang, il y avait aussi les coûts financiers liés au déplacement de l'équipe. Aujourd'hui, l'hôpital de Kabgaï, comme la douzaine d'autres dans la zone, économise. Ici, le docteur Philippe, médecin directeur de cet hôpital, explique.
On a gagné 2 fois. D'abord, on a gagné le temps pour sauver les patients. Deuxièmement, on a gagné financièrement parce que le chauffeur, le carburant, le véhicule, et puis même le professionnel quand il est là-bas, le district de Muhanga couvre une population gravitant autour de 300 000.
Les services d'urgence et surtout celui de la maternité sont les plus soulagés par les services de ces drones sauveurs comme on les surnomme ici.
Donc en moyenne, par mois, on fait des accouchements entre 300 et 350. Césarienne, c'est entre
120 à 150.
À la pédiatrie de l'hôpital Kambgaï, les petites Amina, amenées d'urgence ici, viennent d'être transfusées. Elle souffre de l'anémie. Sa maman peut sourire en voyant son fils grignoter encore un morceau de biscuit. Actuellement, 12 cliniques sont desservies dans un rayon d'environ 80 km. Le nombre de cliniques desservies va doubler avant la fin de cette année, selon les responsables des ziplines. Charlie Kassereka des retours de Kigali pour VOA Afrique.
De cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Anne Alberson. À la console, John Ellison. Présentation, Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.